Donc ma première question est très simple, c'est depuis quand vous habitez à Orléans ou dans l'agglomération, ici à Olivet ?
Alors nous sommes arrivés à Orléans en août 93 et à Olivet en mai 94.
D'accord.
Voilà, donc ça fait pratiquement 16 ans, 17 ans bientôt.
D'accord. Voilà. Et alors pour quelle raison vous êtes arrivé ?
Professionnel, mon mari était muté dans la région, on est de Paris et voilà, il a été muté à Orléans. C'était un choix, on avait demandé à partir en région, on avait déjà 3 enfants et un 4e en route et on souhaitait quitter la région parisienne pour être dans un cadre un peu plus soft pour élever nos enfants. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes partis.
D'accord, d'accord. Et vous étiez à Paris, vous êtes d'origine parisienne ?
Oui, oui.
D'accord.
On est né là-bas.
Né à Paris.
Voilà.
D'accord, c'était un premier choix qui était de partir un peu dans
Oui, alors le premier, on n'a pas véritablement choisi Orléans, on avait choisi de partir en région. On nous a proposé Orléans, qu'on a accepté sans a priori, sans préjugés, donc voilà.
Et donc quand vous êtes arrivé à Orléans, vous avez habité où au début ?
On a habité à Orléans, sud limite Olivet, parce qu'on habitait rue Basse-Mouillère, on avait loué une maison en attendant de trouver dans quel quartier on aurait envie d'habiter, soit sur l'agglomération vraiment d'Orléans même, soit un peu en dehors, et puis finalement notre choix s'est porté sur Olivet.
Et donc ça c'était vraiment un choix ?
Oui.
C'est après avoir connu un petit peu la ville, l'agglomération.
Voilà, on a un petit peu cherché à regarder à droite à gauche. À ce moment-là, mon mari travaillait aussi à Olivet, donc c'est vrai que c'était quand même, on se trouvait que c'était plus simple, surtout en venant de Paris où on se fait très vite au fait de ne plus avoir d'embouteillage.
Ah oui.
Voilà, donc,
oui,
donc du coup, on avait choisi Olivet, nos enfants étaient scolarisés là, donc on a choisi de vivre à Olivet, ce qu'on ne regrette pas.
Non. Et c'était déjà peut-être par connaissance aussi, non ? Vous aviez
non.
Des...
Non, on est arrivé ici en ne connaissant personne, donc pendant les 9 mois où nous avons habité Orléans, moi j'ai cherché un peu à droite à gauche avec les agences, et puis très vite notre choix s'est fixé sur Olivet.
D'accord. Et sinon je reviens juste sur avant, là, Paris, c'est donc vous êtes né à Paris, de parents nés à Paris aussi, vous êtes parisienne de...
Oui, alors de père et mère nés à Paris, mais avec un grand-père italien. Donc comme tout Parisien qui se respecte, Parisien depuis quelques générations, mais pas tant que ça.
D'accord. Je peux vous demander ce que faisaient vos parents quand,
Mon père était chef d'entreprise d'une entreprise de travaux publics et ma maman au foyer. Voilà. Et moi, c'est pareil, j'ai suivi les traces de ma maman, j'ai élevé mes enfants.
Voilà, c'est ça. Donc vous avez fait le choix de...
Oui, alors en fait, j'ai fait des études de droit pendant assez longues. Et puis, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et quand on est parti, ici, je n'ai pas recherché de travail. Nous avions donc 4 enfants, puis 5. Et on a choisi que je reste à la maison pour élever les enfants.
À ce moment-là, mais vous avez quand même commencé déjà
par travailler,
par faire des études relativement longues,
oui.
Et travailler.
Oui, mais j'ai préféré élever mes enfants, je trouvais que...
Oui.
Même si je me trouve un peu surdiplômée pour le poste. Oh, et très mal payé d'ailleurs,
très mal payé peut-être, très mal payé, c'est sûr, surdiplômé, je ne suis pas sûr.
Ah
bah... Pas des diplômes
quand
importants.
Même, ouais, c'est vrai, il en faut.
Une occupation des plus dures quand même.
Ah bah oui, c'est prenant, c'est surtout un éventail assez riche de compétences.
C'est ça quand même. Oui, gestion des ressources humaines.
Voilà. En fait, je me présente comme soit organisateur d'ambiance, soit chef de PME, chef d'entreprise PME.
Oui. Et que, comme pendant ces 10 années, là, comme métier, vous faisiez quoi ?
J'ai fait des études de droit, donc j'ai travaillé comme juriste.
Ah.
Voilà. Dans une entreprise.
D'accord. Donc, vos enfants, eux, ils ont quel âge ?
Alors, notre aînée a 23 ans, elle est étudiante en pharmacie à Paris, enfin sur à Châtenay-Malabry. La seconde a 21 ans, elle est étudiante en droit. Je n'ai rien fait pour ça. Le troisième est...
À Orléans,
non, elle est à Paris aussi.
À Paris aussi.
Le
à
numéro...
Paris, Paris,
non, non, elle est à la FACO, à l'université qui se trouve rue des Grands Champs. À chaque fois, je dis Notre-Dame-des-Champs. Non, rue Notre-Dame-des-Champs, voilà, à chaque fois, je confonds les deux. Le troisième est interne à son choix à Reims, à Saint-Joseph, au lycée. Et la numéro 4 à Sainte-Croix. Au lycée aussi en seconde, et un petit dernier en sixième à Sainte-Croix. Voilà.
D'accord, oui, ça fait une belle grande famille.
Ben oui, ça occupe bien, d'où la raison du choix de rester à la maison.
Oui, c'est peut-être même presque plus un choix à ce moment-là.
Ah ben, si, c'est quand même vraiment un choix, parce que si on ne choisit pas d'élever ses enfants, je pense qu'on en fait un peu moins. On reste dans des choses qui sont gérables pour allier à la fois une activité professionnelle et le fait d'avoir des enfants. Donc comme on avait décidé, moi j'étais ravie hein, de rester chez moi et d'élever mes enfants, pas du tout été un choix cornélien du tout. Donc du coup, c'était pas du tout un souci d'avoir un petit cinquième qui a 12 ans, bientôt, 10 avril. Donc, il n'a pas encore 12 ans. Quand je dis qu'il a 12 ans, il n'est pas content.
Et le choix d'Olivier, ça peut être lié aussi au fait d'avoir une famille relativement nombreuse,
oui.
Comme ça. Par exemple, c'est une ville ou un quartier intéressant pour la vie de tous les jours.
On a très vite senti qu'Olivier, il y avait plusieurs familles qui étaient comme nous, avec 3, 4, 5 enfants, 6 enfants, même plus. Ce qui faisait que nos enfants trouvaient d'autres enfants qui vivaient les mêmes choses qu'eux, donc ça c'est quand même pas mal. On avait fait le choix de les mettre dans une petite école privée à Olivet qui s'appelle La Providence, où ils se sont vraiment très vite fait des amis, ils ont été très vite accueillis, nous aussi on a été très vite accueillis, et puis cette petite ville elle nous semblait une taille à la fois relativement grande pour y trouver des installations et des transports, des choses qui y rendent la vie facile, et à la fois pas trop grande, ça nous permettait aussi d'avoir un jardin pour les enfants, donc voilà, tout ça a fait que notre choix s'est quand même vraiment vite porté ici, et on y a trouvé un accueil qui était quand même très chaleureux très vite. Voilà, quand on vient d'ailleurs et qu'on connaît personne, c'est quand même très appréciable.
Vous avez trouvé des familles
qui sympathisaient. On s'est fait très vite un très très bon réseau d'amis. On a des amis qu'on connaît depuis qu'on est arrivé ici, avec lesquels on est parrain marraine de nos enfants respectifs maintenant, et c'est vrai que ça a fait partie des critères de choix, cet accueil qu'on a trouvé ici, qu'on aurait probablement trouvé ailleurs certes, mais il s'est trouvé que c'était là que les gens qui nous ont accueillis étaient olivetains. Enfin, en tout cas, si ce n'est d'origine, tout cas d'adoption.
Et c'est l'école qui a beaucoup servi de contact, en fait.
Oui, l'école et la paroisse. C'est quand même l'école où finalement on se retrouve tous les soirs quand on est une maman et qu'on va chercher ses enfants. Donc on finit par quelqu'un finit par venir vous demander d'où vous venez ou si vous venez d'arriver, etc. Et puis les choses vont vite. Hein. Et les enfants, c'est un bon facteur d'intégration quand ils sont jeunes, parce que très vite ils vous invitent des copains, très vite ils se font inviter, donc ça a été assez rapide.
D'accord.
Voilà.
Et par rapport à Olivet, justement, vous faites vos courses sur Olivet, vous allez dans les commerces du coin plutôt,
Moi je vais, c'est vrai que j'aime assez privilégier le petit commerce un peu de proximité, parce que je me dis qu'un jour ou l'autre on se plaindra de plus les avoir. Donc on parlait du boucher tout à l'heure, je vais chez le boucher à Olivet. Le boulanger, je fais fonctionner un petit peu le commerce local. Bon, et puis évidemment, comme tout le monde, je me sers des supermarchés. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est vrai que j'aime bien privilégier quand même aussi quelques achats là. Chez nos petits commerçants.
Oui, peut-être qu'à Olivet, il y a un boucher, un poissonnier.
Oui, il y a même plusieurs bouchers, bon poissonnier, plusieurs boulangeries. Ouais. Alors, tout ce qui est coiffeur, agence de voyage et agence immobilière, nous sommes très très bien servis. On peut être très bien coiffé, très bien logé et bien voyager à Olivet. Et beaucoup, avoir aussi de très bonnes banques. On en a beaucoup. Mais il nous reste aussi quelques commerces alimentaires très appréciables.
Et pour une maison comme ça, quand vous avez des aménagements à faire ou des problèmes de plomberie, etc., c'est des artisans locaux
Oui. Alors, on a rencontré très vite en arrivant un artisan qui nous a fait beaucoup de travaux chez nous. Et d'ailleurs,
un bon artisan.
Un très bon artisan.
Vous avez bien de la chance.
Voilà, j'ai bien de la chance. Et à tel point d'ailleurs que quand nous allons partir, c'est lui qui va faire les travaux dans notre future maison en région parisienne. C'est pour vous dire que vraiment on y tient beaucoup et qu'on ne le lâche pas comme ça.
Donc vous allez partir bientôt ?
Oui, cet été.
Pour des raisons professionnelles aussi,
Alors professionnelles et familiales, parce que donc nous avons deux enfants à Paris, un numéro 3 à Reims, ce qui est quand même pas très simple au niveau des transports, à avec mon mari, nous sommes enfants uniques tous les deux. Nous avons, moi, je n'ai plus mon papa, mais une maman qui commence à être un peu âgée. Mon mari a des parents aussi âgés. Donc, on pense qu'il est temps d'aller un peu faire un petit regroupement familial et s'occuper de nos familles respectives. Et mon mari a effectivement la possibilité de retravailler sur Paris.
Je peux vous demander ce qu'il fait comme
travail ? Oui, il est DRH du groupe Thalès. Voilà, d'un site du groupe Thalès. Et en ce moment, il travaille à Vendôme.
Ah oui. Voilà. Donc oui, il a eu la possibilité de,
oui,
de travailler sur Paris
de
ou
voir
proche,
un site sur Paris ou en région parisienne. Voilà.
Et donc vous avez déjà décidé où vous allez en région parisienne?
Oui, nous avons déjà décidé. Nous partons dans les Hauts-de-Seine, une petite commune qui s'appelle Bourg-la-Reine. Voilà.
D'accord, vous avez déjà même trouvé la maison.
Et voilà.
Ça tout est déjà...
C'est un retour aux sources, vous savez, donc c'était pas très compliqué de savoir où on voulait aller se poser. C'était moins compliqué dans ce sens-là.
D'accord, maintenant vous allez quitter vos amis d'Olivet.
Oui, alors en même temps, on part à 120 km d'Olivet, oui. Donc il y a quelques moyens de communication faciles. On n'a pas perdu nos amis parisiens quand on est venu dans la région, donc je pense qu'on ne perdra pas nos amis d'Olivet et d'Orléans quand on partira sur Paris. On s'est engagé sûr à venir et à les accueillir.
Et puis vous, donc, vous comme vous amenez votre famille, vous amenez votre occupation
voilà,
principale.
Moi j'amène mon occupation principale. Donc voilà, je pars avec mon travail.
Et vous pouvez me détailler un peu votre travail justement, enfin, cette occupation principale.
Mon travail. Oui.
Cette occupation, non mais...
je peux vous dire.
Parce que je sais que vous êtes très occupé, journée, c'est très rythmé.
C'est très rythmé d'abord par tout ce qui est conduite. Parce que même si Olivet est quand même bien desservi en transport, ça reste un peu long. C'est-à-dire que pour rentrer du lycée Sainte-Croix, notre fille Caroline peut mettre environ 45 minutes, même pas loin d'une heure, alors qu'en voiture, on met un bon quart d'heure. Quand ça roule bien, on met un bon quart d'heure. Donc je trouve qu'après une grosse journée ou avant une grosse journée, c'est quand même pas sympa de la laisser partir comme ça, alors que je suis là pour ça. Donc je fais pas mal de transports.
Vous faites tous les transports ?
Je circule beaucoup. On s'arrange aussi avec quelques mamans pour faire un peu de covoiturage. Mais évidemment, ils arrivent à des âges où ils n'ont pas forcément tous les mêmes heures. Mmh. Donc, quand on peut, on s'arrange. Et puis, je fais tout ce que font les mamans à la maison. Donc, le rangement, le linge, le ménage, les courses, la cuisine. Qu'est-ce que je vous fais encore ? Alors, j'ai quand même d'autres activités. Avec mon mari, on est chef de groupe scout. Scout unitaire de France. Donc, on a en charge un des trois groupes scouts d'Orléans. Donc, ça nous prend quand même pas mal de temps aussi. Mais c'est que du bonheur. Pendant toutes ces années où on a été Olivet, j'ai fait du théâtre avec une troupe d'amateurs. Donc voilà, cette année, pour la première fois, on ne le fait pas parce qu'on a eu un petit contretemps qui fait que ça a été annulé cette année. Mais pendant pratiquement 14 ans, on a fait deux représentations tous les ans. Donc j'apprends, je fais fonctionner ma tête. Et voilà.
Non, mais c'est beaucoup d'occupations.
Oui, oui.
Scout, ça vous prend beaucoup de temps ? Vous êtes très investi ?
C'est assez prenant à certaines périodes. Il y a des moments plus calmes. Notre rôle est d'accompagner les chefs, les jeunes qui encadrent même les plus jeunes. Donc notre rôle est vraiment de les accompagner, de les aider, de les encadrer à notre tour. On n'a pas du tout de compétences en ce qui concerne les plus petits, les enfants qui sont dans le mouvement. Nous,
d'accord.
On est vraiment...
Vous encadrez les
encadrants, si on peut dire. Voilà. Donc,
les ressources humaines.
Voilà, ça ne change pas trop mon mari. Ce qui veut dire pas mal de tâches administratives dont on les décharge, parce qu'ils sont quand même tous étudiants, ils n'ont pas toujours le temps de faire des choses dont on les décharge. Et puis, un accompagnement aussi bien spirituel, on les aide, accompagné de nos aumôniers, on les aide dans cette voie-là. Et également, pour tout ce qui peut être, tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la tâche qu'ils ont acceptée de chef d'une unité ou d'assistant d'une unité.
Mais ce sont des jeunes de quel âge ?
Alors les jeunes qui encadrent les plus... Alors les petits ont entre 8 et 16, 10 et 17 ans à peu près, les plus jeunes, enfin ceux qui sont scouts dans nos unités, et les chefs ont entre 18 et 22, 23 ans.
C'est ça, entre 16 et 23 ans.
Voilà, alors 16 ans, non, c'est trop jeune, ils ont plutôt 18 ans, 17, 18 ans, jusqu'à 23 ans. À 16 ans, ils sont encore dans les unités.
Et donc, voilà. donc eux-mêmes ont en responsabilité l'animation d'un groupe
voilà,
de...
Voilà. Donc en fait, les groupes sont répartis en diverses unités. Les petits garçons sont des louveteaux. Quand ils grandissent, ils deviennent des éclaireurs et donc ils sont dans les troupes.
C'est ça, il y a un âge.
Oui, de 8 ans à 12 ans, ils sont dans des meutes, ils sont louveteaux. De 12 ans à 16, 17, 17 ans, ils sont éclaireurs dans des troupes. Pour les petites filles, c'est Jeannette avec les mêmes tranches d'âge. Et ensuite, guide. Et puis ensuite, quand ils ont 17 ans, ils peuvent continuer en étant les aînés du mouvement, c'est-à-dire routier pour les garçons et guide aîné pour les filles. Et ensuite, en général, ils aiment donner à leur tour, donc ils deviennent chefs. Et les chefs encadrent ces mouvements, ces jeunes-là dans leurs diverses unités. Alors on a besoin de beaucoup de filles, puisque les filles sont à la fois cheftaine de guide, cheftaine de Jeannette et cheftaine de louveteau, alors qu'il n'y a que des garçons qui sont évidemment chefs de troupe. Donc on a des maîtrises un petit peu déséquilibrées au niveau de la représentation, puisqu'on a quand même beaucoup plus de filles que de garçons. Mais tout ça marche très bien.
Ah oui.
Donc non, ça occupe pas mal.
Oui, ça, j'imagine que ça occupe bien. Vous-même, vous avez suivi ce parcours-là. Vous avez
Alors moi, j'ai été guide et cheftaine de louveteau.
Guide et cheftaine de louveteau, voilà. D'accord.
Et puis mon mari qui n'a pas fait de scoutisme m'a beaucoup étonnée lorsqu'un jour des chefs de groupe ont dit nous on doit arrêter, qui a envie de prendre notre suite? Moi j'aurais été emballée, mais je me suis dit comme il n'a jamais fait de scoutisme ça va lui faire peur, et il m'a dit t'as pas envie qu'on le fasse? Ah. Donc voilà, on s'est lancé. D'accord. Avec bonheur.
Ah oui.
Mais nos enfants sont tous scouts, hein, donc il a vécu tout le parcours des enfants.
D'accord.
Et je pense qu'il a été très très attiré.
Eux, ils suivent le
parcours.
Oui.
Ils ont été scouts. Les filles ont été Jeannette dès le départ. Les garçons, notre dernier a fait sa dernière année au louveteau. Voilà.
D'accord. Et donc ils font des activités quand ça, c'est sûr.
Alors c'est en général un week-end sur deux. Quand je dis un week-end, c'est soit un samedi, soit un dimanche. Voire un week-end, mais ils sont pas forcément pris le samedi et le dimanche une fois sur deux. Ils ont donc quelques week-ends dans l'année, un mini-camp en général à Pâques sur 3 jours, et puis un camp l'été, donc une semaine pour les plus jeunes, les louveteaux et les Jeannettes, 15 jours en général pour les guides, et 3 semaines pour les garçons.
Oui.
Voilà. Et les aînés partent eux aussi de manière moins systématique, c'est-à-dire que les aînés partent pas forcément tous les ans, mais souvent leur camp est axé, le projet des aînés c'est le service, donc ils sont axés sur généralement une action humanitaire, donc ils peuvent aller mener à l'étranger, et de plus en plus on les motive pour rester en France en leur disant qu'il y a aussi des choses à faire chez nous. Mais bon, ils sont souvent très très attirés par l'exotisme, ce que je comprends. Donc voilà, eux peuvent partir un mois et demi, en fonction du projet qu'ils ont à mener à bien.
D'accord.
Voilà.
Et vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un des trois groupes.
Oui.
C'est parce qu'il y a, plusieurs...
Il y a trois groupes scouts unitaires de France sur Olivet.
D'accord. Ça, scouts unitaires de France, c'est déjà...
C'est un groupe, c'est un mouvement. Il y a les scouts de France, les scouts d'Europe, les scouts unitaires de France, qui sont les trois grands mouvements chrétiens catholiques des scouts. Ensuite, le scoutisme se décline en plusieurs
mouvements. Mais là,
mouvances, religions, etc. On peut avoir des scouts de confession juive, de confession musulmane, voire des scouts sans aucune connotation religieuse. Donc parmi tous ces mouvements, les trois principaux mouvements catholiques sont donc les scouts de France, les scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Et à Orléans, nous avons trois groupes scouts unitaires de France, puisque nous avons environ 390 scouts inscrits dans nos trois groupes, qui sont donc répartis.
Voilà, ça c'est une répartition de gestion pour parler.
Voilà. Alors en fait,
mais il n'y a pas de différence entre ces.
Non. Ces trois groupes-là fonctionnent. Alors on a beaucoup de chance parce que les trois familles de chefs de groupe, puisqu'on sommes trois couples de chefs de groupe, s'entendent très très bien et travaillent tout à fait ensemble. Donc on fait notre week-end de groupe, on met un S à groupe et on le fait tous ensemble. Ce qui nous paraît intéressant, c'est de donner à nos jeunes la dimension de cette communauté. Mmh. C'est vrai que quand ils sont en unité, ils sont 24 chez les petits, une trentaine chez les plus grands, ça donne déjà une notion du groupe, mais c'est pas suffisant. Quand ils se retrouvent à quasiment 400 scouts sur le même lieu, ils ont plus la notion de ce que peut être cette communauté scout dans laquelle ils vivent. Et c'est des bons moments.
Ah oui,
ça la pêche des scouts.
Et alors qu'est-ce qui différencie les scouts unitaires des scouts d'Europe ou des scouts de France?
Alors au départ, si on fait un peu l'historique, tout le monde était scout de France. Et puis il y a eu après la fameuse année 1968, une séparation. Les scouts d'Europe ont quitté les scouts de France en les trouvant un petit peu trop tièdes et probablement un peu pas assez engagés au niveau chrétien. Puis bref, il y a eu toute une histoire. Donc les scouts unitaires n'existaient pas encore à l'époque, mais étaient plutôt, on pouvait plus les rapprocher des scouts d'Europe. Et au niveau des scouts d'Europe, non pardon, on pouvait plus les rapprocher des scouts de France. Et au niveau des scouts de France, il y a eu un moment où le mouvement scout de France a décidé de diviser les tranches d'âge. C'est-à-dire que moi je vous ai dit tout à l'heure, nos enfants ont entre 8 et 12 ans et 12 à 17 ans. Cette tranche 12-17 a été divisée en deux par les scouts de France en 12-15 et 15-17. Et ça n'a pas convenu à certains scouts qui ont dit on veut rester, cette tranche-là doit rester unie, d'où notre nom d'unitaire. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la pédagogie telle qu'on la souhaitait pour nos enfants et leur développement, cette coupure à 15 ans était une vraie rupture qui ne nous permettait pas de mettre en place la pédagogie qui nous intéresse, qui est de dire que les grands prennent en charge les plus jeunes. Entre 15 ans et 12 ans et 17 et 15 ans, cette rupture-là ne convenait pas. C'est important pour nous que quand un jeune arrive à la troupe, il a 12 ans, il ne sait rien. Il était le plus grand chez les louveteaux, il devient le plus petit dans la troupe, donc ce passage-là déjà est troublant. Il est important qu'il ait avec lui des vraiment plus grands qui le forment, qui l'aident, le prennent en charge. Et ces plus grands qui étaient des anciens tout petits ont à leur tour cette notion du service et du retour d'ascenseur, si je puis dire. Donc c'est comme ça qu'est né le mouvement scout unitaire de France, en ne souhaitant pas diviser cette tranche d'âge. D'accord. Donc là je parle des garçons, c'est exactement la même chose chez les filles.
Hein. C'est un choix pédagogique.
Pédagogique, voilà, ça a été un choix pédagogique et qu'on ne regrette pas. Moi je pense, pour avoir vu vivre nos enfants et être aujourd'hui dans le mouvement, que cette tranche d'âge là qui peut paraître très hétérogène, parce qu'entre un enfant de 12 ans et un garçon, ou une fille de 12 ans, un garçon, une fille de 17 ans, on a véritablement, et on a raison, la sensation de penser qu'il n'y a rien à voir. Et bien précisément parce qu'il n'y a rien à voir, il y a vraiment une grande richesse à les mélanger et à leur faire partager leurs expériences. Les petits prennent beaucoup des grands et les grands apprennent beaucoup en aidant les plus petits. Donc c'est la raison pour laquelle on a gardé cette tranche d'âge-là unie, d'où le nom d'unitaire. Voilà.
D'accord. Par contre, unitaire mais pas mixte, hein, je crois.
Alors, pas mixte, c'est-à-dire que contrairement...
C'est un choix pédagogique aussi.
C'est un choix pédagogique aussi, on est parti du principe, alors c'est pas moi, je ne fais qu'appliquer la pédagogie à laquelle j'adhère, on est parti du principe que aussi bien chez un enfant de 8 ans à 12 ans, garçon ou fille, les attentes n'étaient pas les mêmes. Et en particulier, alors encore plus chez nos ados, entre 12 et 17 ans, où là les attentes ne sont véritablement pas les mêmes. On ne peut pas proposer les mêmes activités à des filles et à des garçons de ces âges-là. On ne peut pas avoir les mêmes attentes entre des filles et des garçons de ces âges-là. On s'adresse à des publics qui sont véritablement sur des chemins très divers. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'ils se rencontrent. Rassurez-vous, ils se rencontrent. Mais pendant le moment où ils vivent au scout, il est important que pour leur développement, qu'ils soient intellectuels, physiques, spirituels, qu'ils aient chacun la chance de pouvoir le vivre avec des filles pour des filles et des garçons pour des garçons. On n'est absolument pas opposé à ce que tout ça se rencontre. Tout ça se rencontre, je vous rassure, que ce soit dans leurs fêtes, dans leurs soirées, dans le sein de leur famille, puisqu'ils sont garçons et filles, ou à l'école, ou je ne sais où. Mais au niveau scout, c'est vraiment un endroit où ils peuvent vivre entre filles et entre garçons. Et ils ne le regrettent pas.
Oui, j'imagine bien. Voilà. Et justement, vous me disiez qu'ils se rencontraient à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi d'autres activités qui sont liées, enfin, où on rencontre les mêmes amis,
par exemple? Ah oui, bah forcément. Alors, pas sous le couvert du scoutisme, mais quand on est scout ensemble, on se rencontre, quand on est dans le même groupe, ben, on se voit ne serait-ce qu'au week-end de groupe, on se voit aux fêtes de Jeanne d'Arc, par exemple, et puis on se voit dans leurs petites soirées, dans les filles sont copines avec les sœurs des unes, les frères des autres. Donc évidemment, le scoutisme n'est pas un frein à ce qu'on se rencontre voilà, et même au collège ou même à l'école primaire, forcément ils se connaissent et ils se retrouvent. Donc mais le scoutisme leur crée des liens.
Oui, c'est ça, voilà, ça crée des liens.
ils partagent quand même des choses fortes entre eux et dans leur les autres domaines de leur vie, ils continuent à le partager, je pense. Enfin, en tout cas, dans l'exemple de notre famille, puisque dans nos 5 enfants, on a 3 filles et 2 garçons, et ils continuent, même à la maison entre frères et sœurs, à partager ce qu'ils ont vécu pendant une sortie, un camp, une activité, quelle qu'elle soit.
Oui, ça leur permet d'organiser aussi des goûters d'anniversaire.
Ah oui, même sans le scoutisme, ils l'organisent.
Oui, non, mais je veux dire, c'est plutôt avec des amis qui sont aussi.
Oui, cela dit, c'est quand même pas sclérosant. Hein. Ils ne vivent pas contre scout.
Oui, bien sûr.
Ils s'ouvrent sur l'extérieur. Et précisément, nous, en tant que chef de groupe, alors là, pas seulement en tant que parents, on essaie d'ouvrir nos mouvements scouts, pas seulement que les gens n'aient pas l'impression qu'on doit être déjà une famille implantée dans ce mouvement-là pour pouvoir y adhérer, pas du tout. C'est un mouvement très ouvert et qui se tourne précisément vers tous les jeunes. Il se trouve qu'on a effectivement beaucoup de jeunes d'Orléans, d'Olivet, etc. Mais on a aussi des enfants qui viennent un peu de tous horizons et la richesse est là. Parce que si on ne prêche qu'à des convaincus, ça n'a pas un grand intérêt. Donc l'intérêt est précisément de s'ouvrir et d'accueillir des enfants venant de tous horizons.
Non, mais alors j'imagine que ça doit donner ces expériences-là des moments très forts.
Oui, non, mais c'est sûr que les moments de rentrée où on a des activités à la rentrée juste avec tous nos chefs. Donc cette année, on les a emmenés faire une journée de canoë. Et on crée des liens, c'est curieux parce qu'ils sont quand même nettement plus jeunes que nous, c'est clair, ils sont dans l'âge d'être nos enfants, mais on crée des liens très, très proches, ils viennent très facilement nous parler, nous confier des choses, alors qui sont tout à fait scouts souvent dans la difficulté de leur tâche, mais pas seulement. Donc mon mari est DRH, il a reçu très souvent des jeunes scouts qui viennent pour qu'ils les entraînent à des entraînements d'entretien d'embauche, refaire des CV, je pense qu'on a l'âge d'être leurs parents sans être leurs parents, donc ça dénoue parfois certains problèmes parce qu'on n'a pas le même regard sur eux, obligatoirement. Même si on a l'âge d'être leurs parents, on ne l'est pas.
Et vous avez vécu vraiment des moments comme ça, des anecdotes ou des moments disant vraiment c'est là que je vis quelque chose qui est...
Je pense que les moments forts qu'on peut avoir au scoutisme, c'est aussi les moments où on va visiter les camps scouts. C'est-à-dire qu'on s'engage l'été à aller passer une journée avec les plus jeunes, 2 jours, voire plus. Enfin, on reste dans des limites de 2 jours pour les plus grands pour ne pas être une gêne pendant leur camp. Et là, c'est vrai qu'on vit des moments, des beaux moments, des moments où les jeunes font leurs promesses, c'est quand même un engagement. On est dans une société aujourd'hui où on a tendance à penser que les jeunes ne s'engagent pas à grand chose, n'ont pas forcément une grande spiritualité, vivent pas forcément des choses intenses. Là, nous, on est témoins d'engagement de petits qui sont très émouvants parce que voilà, mais d'engagement de plus grands qui sont encore plus prenants parce que là, on a vraiment la sensation qu'ils savent vraiment à quoi ils s'engagent et ce qu'ils font. Donc ça, c'est quand même des moments forts. Et puis des moments très joyeux aussi parce que évidemment ils nous incluent dans leur jeu. Alors là, autant vous dire qu'on se retrouve détrempés, remplis de mousse, glissant sur des bâches ou tombant à l'eau ou je sais pas quoi, mais tous ces moments où ils nous incluent dans leur jeu, où ils nous bousculent, ils nous chahutent un peu, ça nous montre qu'ils nous aiment, parce que s'ils nous aimaient pas bien, ils s'en ficheraient, ils nous laisseraient sur le côté. Donc je pense que plus on est chahuté, plus meilleur signe c'est en réalité.
Mais alors, il y a eu des grands moments, type visite du parc, justement.
Ah oui, alors les. Alors,
très, tout à fait particulier.
Il y a déjà eu un très grand moment, c'est les 100 ans du scoutisme, avec un grand rassemblement à Chambord. À l'époque, nous n'étions pas chefs de groupe, mais on a eu la chance de pouvoir y assister parce que l'organisme, enfin, les scouts invitaient les familles proches. Donc, comme c'était à Chambord, on a pu y assister. Et c'est vrai qu'il y avait quand même environ 17 000 jeunes réunis. Et je vous avoue que ça a été un très très grand moment. Alors d'abord, ils ont eu un temps épouvantable, les pauvres, ils ont eu une pluie battante. Et juste avant la dernière veillée, donc on était devant le château, c'était magnifique. Et là, il y a eu, d'ailleurs, cette photo est passée dans toutes les parutions scouts, un arc-en-ciel au-dessus du château, absolument magnifique. Et pendant 1h30, on a vu arriver nos 17 000 scouts qui se sont installés pour une veillée mémorable. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des moments très forts, les journées nationales donc sont des moments très forts, où on se retrouve tous entre tous les scouts de France qui peuvent et même d'ailleurs, puisqu'on a des scouts aussi à l'étranger. Se retrouvent tous ensemble. Je pense qu'on a vraiment l'instinct grégaire. On a besoin d'être en troupeau. On se sent bien quand on est tous réunis, tous ensemble. Ce sont vraiment des moments très forts.
Voilà. Et le plus localement, les fêtes de Jeanne d'Arc, ça fait partie des activités?
Oui, oui, oui. Nous sommes présents aux fêtes de Jeanne d'Arc le 1er mai. Nous avons en général des jeunes scouts qui sont les pages, les écuyers de Jeanne d'Arc. Et puis nous participons à la messe qu'on appelle la messe de la chevauchée de Jeanne d'Arc le 1er mai, et ensuite le défilé pour accompagner Jeanne d'Arc jusqu'à son entrée dans Orléans.
La chevauchée de Jeanne d'Arc, le 1er, c'est l'entrée dans la ville.
Voilà, elle entre par bateau.
Oui,
et
bateau,
voilà,
oui.
Et avec la barque qui traverse la Loire. Et ensuite, il y a une messe qui se trouve en général au château du Boucher, qui est tout près de l'île Charlemagne. Et donc là, c'est une messe où les scouts sont tous présents, les trois mouvements. Et ensuite, nous accompagnons donc tous en défilé à l'entrée de Jeanne d'Arc dans Orléans.
D'accord.
Voilà.
Et après, donc, le défilé, et ça demande beaucoup de travail. Enfin, c'est un élément fort ou c'est un élément...
C'est un élément, je dirais, plus traditionnel des scouts. C'est une présence qui se justifie parce que Jeanne d'Arc est généralement, enfin en règle générale, a été scout. C'est pas une totale obligation, mais souvent elle l'a été. Et par tradition, les scouts accompagnent Jeanne d'Arc dans Orléans. Donc le choix a été fait depuis très longtemps de l'accompagner le 8 mai, de ne pas être présent sur les fêtes le 1er mai, et de ne pas être présent sur les fêtes le 8, parce que c'est quand même un peu lourd de mobiliser tout le monde les deux jours. Ça nous demande pas une organisation insensée, parce qu'en réalité, on rentre dans l'organisation des fêtes de Jeanne d'Arc qui est déjà très au point. Nous sommes présents à la messe, présents au défilé. Et voilà, donc ça demande à nos chefs d'être là pour encadrer les jeunes. Et c'est un moment aussi où les scouts se rencontrent autour d'une activité très, très particulière qui s'appelle la Sioule. C'est-à-dire, tout le monde ne connaît pas. C'est un ancêtre du rugby. Et en général, nos éclaireurs, toutes troupes mélangées, se fritent un peu avec les scouts d'Europe, toutes troupes mélangées. Et le score de cette Sioule est un grand moment de gloire pour celui qui la remporte.
Et ça se joue où, la Sioule ?
Ça se joue sur les terrains de l'île Charlemagne.
Ah, sur les grands terrains de l'île Charlemagne.
Voilà, et alors on met en général un aumônier pour arbitrer, parce que ils ont quand même encore le respect de l'ordre. Et voilà, ça nous évite quelques bleus.
Et alors, et vos enfants, enfin vos filles, par exemple, elles n'ont pas voulu être Jeanne d'Arc ?
Non, alors, sur nos filles, nous en avons deux nées à Paris, la troisième est née à Orléans. Nous habitons à Olivet, ce qui pendant très longtemps était, je crois, un critère il fallait habiter Orléans pour, je pense. Hein. Elles n'ont jamais souhaité être Jeanne d'Arc, non. Et elles sont déjà pas mal occupées. Les deux aînées sont cheftaines de compagnie, toutes les deux, donc ça les occupe pas mal en dehors de leurs études. Non, et Jeanne d'Arc, ça les a jamais tentées.
Voilà. D'accord, non, mais par contre...
Et la troisième, ça ne l'attend pas non plus.
Je vois bien que tout le scoutisme, ça doit vous occuper.
Oui, bien, oui. Et puis en plus, on a un de nos fils qui a la particularité d'être scout marin, parce que figurez-vous qu'à Orléans, nous avons une troupe de scouts marins.
Ah bon ?
Et oui, on peut être marin sur la Loire.
Ah oui.
Donc, c'est un scoutisme un peu particulier, mais qui est vraiment très, très attirant pour les garçons qui aiment naviguer. Alors, c'est un fou de voile l'été, donc il a foncé quand cette troupe s'est ouverte. Et donc, alors eux participent aux fêtes de Loire.
D'accord.
Ils y ont participé encore cette année.
Et ils naviguent un peu sur la Loire.
Alors ils naviguent un peu sur la Loire. Ah, ils ont un bateau de Loire qui s'appelle un sail. Et l'été, ils s'allient avec une troupe, généralement la troupe de Boulogne-Billancourt en région parisienne, qui a une grosse, grosse troupe marine. Et ils naviguent sur les bateaux, généralement dans le Morbihan, enfin en Bretagne très souvent. Ils naviguent pendant une semaine, 10 jours en troupe.
Et donc, il vous reste un peu de temps après pour d'autres choses. Vous me parlez de théâtre tout à l'heure.
On a fait du théâtre pendant très nombreuses années. Donc, cette année, effectivement, c'est tombé à l'eau, notre grand désespoir. Cette troupe, elle a été créée comme ça, pour rigoler avec une bande de copains. On a commencé tout petit, avec juste quelques amis qui venaient nous voir, et puis on a fini pendant plusieurs années au théâtre Gérard Philippe, 2 soirs de suite. On s'est beaucoup beaucoup amusé. J'espère que l'année prochaine ils vont reprendre dardard. On s'est rendu compte que on demandait une toute petite participation aux gens pour payer la salle, et puis on s'est rendu compte qu'en fait tellement de gens venaient qu'il nous restait de l'argent, donc on s'est dit on fait pas ça pour gagner des sous. Donc on a tous les ans versé cet argent à des associations. Donc là, les dernières années, alors c'était pas des fortunes, mais on versait environ 3 500 € à deux associations qu'on gardait 2 années. Donc au bout de 2 ans, ils avaient à peu près 7 000 € de dons venant de notre petite Jaco, comme elle s'appelle. La joyeuse amicale des comédiens comiques de l'Orléanais.
Et ça, les associations, pardon, c'est l'humanitaire ou, oui, alors, ou local plutôt.
Alors voilà, c'est local. C'était nos deux critères étaient que les associations soient plutôt locales, enfin 3 critères même, de petite taille. On n'avait pas du tout envie de leur donner, en gros, leurs frais de timbre de l'année, et puis plus tourné vers des enfants. Voilà, parce qu'on a notre particularité à tous, c'était d'avoir pas mal d'enfants. Donc on a aidé des associations dont le but était d'accompagner des enfants, en général dans le handicap. On a aidé l'association à bras ouverts, le Levain, qui est une association magnifique. Aussi d'autres associations, peut-être moins, pas forcément uniquement tournées vers les enfants, mais en tout cas vers la famille. Voilà, donc... Cette année, malheureusement, notre pianiste nous ayant abandonné en cours de route, on ne peut pas faire notre spectacle.
D'accord. Et alors là, c'est le théâtre, vous en faisiez, mais est-ce que vous allez aussi au théâtre? Est-ce que vous trouvez que sur Orléans, sur Olivet, il y a suffisamment? Vous utilisez les théâtres locaux, les programmations
Oui, on est abonné à Orléans au cadeau. On trouve que ça, c'est d'une qualité pas toujours très égale sur l'abonnement. Il y a souvent une pièce un peu plus fatigante, à laquelle on s'endort parfois un peu. Mais bon, en règle générale, c'est quand même assez satisfaisant et surtout très pratique, cet abonnement. Donc oui, on est abonné depuis de nombreuses années et c'est pas loin. Donc on est très vite revenu. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage.
Et sur Olivet, non, il n'y a pas de
Sur Olivet, il y a la salle à Ivremont, parfois des spectacles, mais c'est vrai que ça, on n'y est pas allé très souvent. Ouais. Lorsque les enfants étaient petits, il y avait parfois des spectacles pour eux auxquels on les accompagnait, mais non, on a plutôt pris un abonnement jeune pour nos enfants avec nous au cadeau, et on les emmène plus au théâtre là.
Et sinon, d'autres activités comme le cinéma
Ah bah oui, le cinéma, on va au cinéma très régulièrement. Nos enfants nous font un programme assez détaillé de ce qu'ils ont envie de voir. C'est très souvent très reposant quand même. Ça fait très rarement mal à la tête ce qu'on va voir au cinéma.
Vous y allez avec les enfants?
Oui, souvent, oui. Voilà. Et puis, ils y vont seuls d'ailleurs. Ils sont grands maintenant, ils se débrouillent sans nous.
Et c'est plutôt au cinéma qui est sur les quais?
Oui, ça, ils aiment bien. Oui. Ça aussi, c'est quand même très pratique. On se garde juste en dessous.
Oui.
Ouais. Je reconnais que tout ce qui nous simplifie la vie est bon à prendre.
Les restaurants, vous sortez parfois au restaurant?
Oui, ça nous arrive, mais pas tant que ça. Ça nous arrive, voilà. Ça nous arrive, mais c'est vrai que... Bon, déjà, on est quand même nombreux. C'est quand même un vrai investissement avec des enfants ou alors avec des amis. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à se recevoir qu'aller au restaurant. Alors, ça peut arriver ici pour un anniversaire, une chose comme ça, qu'un de nos enfants soit content et demande d'aller. Voilà. Mais en général, on reçoit plus à la maison, où on est plus reçu entre amis. C'est plus convivial.
Vous n'avez pas découvert une gastronomie locale très particulière?
Non.
Non.
J'ai pas.
Sur Olivet, par exemple, il n'y a pas.
Il y a des restaurants sur Olivet, mais c'est vrai qu'on n'y va pas. Non, c'est pas tellement notre truc, ça.
Quand vous êtes reçu, il n'y a pas des plats qui sont des plats particuliers de.
Non, j'ai pas. Alors, sans doute des trucs de chasseurs, choses comme ça, mais alors moi, ça tombe bien parce que j'aime pas trop ça. Alors, du coup, on nous en fait jamais. Donc, je suis assez emballée parce que moi, tous les trucs marinés, là, je ne suis pas tellement amateur. Donc,
Les daubes de bif.
Oui, non, je ne suis pas. Non, voilà. Puis alors, le gibier, quand on vous apporte du gibier gentiment et qu'il faut le plumer, le vider, le machin, non. Non, non. Donc, je suis assez ravie de ne pas avoir trop d'amis chasseurs, qu'on a la bonne idée, en tout cas, de ne pas nous en imposer, nous en infliger.
Je me disais, même dans les boulangeries, à Olivet, il n'y a pas de spécialité locale. C'est qu'Orléans n'est pas réputé pour...
Non, je ne pense pas qu'il y ait une gastronomie particulière. Donc non, j'ai pas... honnêtement, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas bien... à part la poire d'Olivet.
Oui, la poire d'Olivet, voilà, c'est vrai.
Qu'on a fait découvrir à des amis parisiens et que maintenant nous ravitaillons régulièrement en poire d'Olivet. Mais moi, je ne bois pas d'alcool. Donc de toute façon, je suis en dehors du coup, là. Alors soyons clichés jusqu'au bout, notre amie est polonaise.
Ah bah oui, forcément vous étiez obligé de faire des couleurs.
Ben voilà.
Des lieux de promenade, suffisamment avec les activités du scoutisme.
Ah bah bon, ça, on en a pas mal avec les activités du scoutisme, mais je dois dire quand même que les bords du Loiret sont quand même une promenade très agréable. Je me faisais cette réflexion, c'est rigolo, il y a peut-être 10-15 jours, en passant sur le pont du Loiret, là, en voiture, je me disais, ça fait bientôt 16 ans qu'on habite ici et je me lasse pas de cette vue. Je trouve que le Loiret est quand même un endroit magnifique. Les petites promenades au bord du Loiret sont très sympas. Lorsque les enfants étaient petits, c'était facile d'y aller en vélo, etc. Et puis on a quand même en Sologne des endroits très beaux pour aller se promener. On est quand même tout prêt pour aller faire des balades en vélo, à pied. Nos enfants ont fait pas mal d'équitation, donc aussi à cheval. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est quand même une région très très agréable. Et tout est très proche. On met pas, on n'a pas besoin d'une heure de route pour se retrouver sur un endroit où on peut aller.
Ici, à Olivet, vous êtes très proche de Loiret, sûr.
Nous avons une barque pour aller faire de la barque sur le Loiret.
Et vous avez une barque qui stationne sur le bord du Loiret.
Alors, on peut la stationner sur le bord du Loiret parce qu'on a adhéré à l'association des riverains du Loiret, mais on a préféré aller stocker dans un garage ici pour qu'elle ne s'abîme pas trop. Et l'été. Nous allons faire de la barque sur le Loiret, c'est très bucolique. Avec un fils scout marin, ça sert à mes.
Oui, voilà. Des activités sportives aussi.
Oui.
Vous utilisez les activités sportives.
On utilise, moi particulièrement, parce que je fais pas mal de tennis, donc je joue à l'USMO. Deux de mes enfants et cette année mon mari s'y est mis. On a utilisé, c'est vraiment ce qu'on a utilisé le plus comme activité sportive, c'est vraiment le tennis.
Là, c'est le tennis à Olivet.
Oui. Au donjon.
Au donjon.
Voilà. Les enfants
ont fait des équipements.
Oui, il y a très bons équipements, très bons profs aussi. Les enfants ont fait pas mal d'équitation. Moi aussi, j'en ai fait pas mal. On montait chez les militaires, là, au 6e cuirassé. Et puis voilà, au niveau sportif, c'est surtout ça. Et puis j'ai une de mes filles, alors qui fait du tennis, mais son activité principale, c'est la danse classique. Donc elle est à l'Académie de danse Dauphine à Orléans.
Ah oui. Oui, c'est une très bonne école, je crois.
Oui, 5 heures par semaine, elle y est beaucoup.
Ah oui. Ils font des très beaux spectacles,
oui,
je crois, aussi.
Oui.
C'est assez professionnel.
Ah bah c'est un bon niveau. Enfin,
un bon niveau, je crois, oui.
Nous, on a découvert la danse avec elle, parce que moi, je dois dire que ce n'était pas du tout mon domaine. Je trouve que les choses qui sont produites sont de qualité. Ah oui, autant que je puisse en juger, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais bon. Et puis, peut-être qu'en tant que maman, je ne suis pas très objective. Je trouve qu'évidemment, la mienne est la plus belle.
C'est la même des choses.
Bah oui, il me semble. Mais je trouve quand même que les spectacles sont de qualité.
Et sur le sport orléanais, par contre, sur le vous n'êtes pas
non
vous n'allez pas au
non
alors les matchs de basket
non je suis allée voir les matchs de tennis au Palais des Sports,
l'Open d'Orléans.
L'Open d'Orléans, voilà. On a eu beaucoup de chance parce qu'un de nos amis nous a invités. On est allé plusieurs fois, mais notamment deux fois invités. Alors dans les loges, c'est parfait. On a une vue magnifique. Et j'adore le rugby, donc je vais voir de temps en temps le match de rugby. Voilà, mais c'est tout. Mais je ne profite pas des installations sportives d'Orléans.
Non, mais c'était surtout sur les équipes. Vous n'êtes pas fan d'un club?
Je ne suis pas fan d'un club. Je suis très fan de rugby. Ça fait beaucoup rigoler tout le monde ici. Donc, j'ai même un peu supporté l'équipe.
Parce que personne ne partage...
un de mes fils qui fait du rugby quand même. Mais sinon, les autres me disent qu'ils préfèrent regarder un match que regarder le match. Je suis très, très mauvaise foi. Enfin, bon. Enfin tout ce qu'ils disent, mais bon, je ne crois pas.
Et télévision, radio, c'est des choses que vous utilisez beaucoup?
Télévision, ben là, oui, vous regardez les Jeux Olympiques, vous imaginez bien. On n'est pas très, très télé. Pas très, très. On est quand même très actif. On a pas mal d'activités. On est tous un peu à droite, à gauche. Donc, on peut se retrouver autour d'un bon film ou un truc comme ça. On a des DVD. La télé, c'est pas systématique. On peut rester plusieurs jours sans l'allumer. Ouais.
Et les enfants aussi, les enfants sont souvent demandeurs. Il y avait des règles peut-être.
Oui, il y a un peu de règles. C'est-à-dire que, en règle générale, effectivement, on ne regarde pas la télé le soir quand on a classe le lendemain, surtout quand on est en sixième, on a encore besoin de dormir. Maintenant, c'est pas draconien. Je ne vais pas vous dire qu'on n'allume jamais la télévision. Je pense que c'est comme tout outil, on doit savoir s'en servir. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a de bonnes choses, il y en a de mauvaises. Mais à la limite, même si on regarde une mauvaise chose en famille, on peut après se dire que c'était vraiment mauvais et en donc famille. Pas recommencer. Quoi. Mmh. Nous, on préfère voir des choses avec nos enfants pour déjà arrêter si ça ne nous paraît pas des choses regardables, ou en discuter, ou si c'est violent, pouvoir débriefer un peu avec eux rapidement. C'est vrai que par principe, on ne les laisse pas seuls devant la télé, c'est pas la nounou. Voilà. Ça n'a jamais été la nounou. C'est moi la nounou.
Oui, ça pouvait être un outil pour la nounou.
Oui, moi je considère vraiment comme tout, comme l'Internet et comme tout le reste, c'est effectivement un outil. Et ça peut être un très bon outil parce qu'on peut avoir de très bonnes choses, mais à condition de s'en servir comme un outil, quoi. Oui. De ne pas laisser cet outil-là prendre une place inconsidérée dans la famille.
Justement, Internet, c'est aussi beaucoup utilisé par vous, les enfants.
C'est utilisé, oui, bien sûr, c'est même beaucoup utilisé. Mais avec les mêmes règles de vie qui fait qu'on s'en sert quand on en a besoin, quand on a fini son travail. Moi, je ne suis pas une anti-Facebook et une anti-tout ça, mais il faut que ça reste dans des normes et qu'on n'oublie pas, pour des amis virtuels, sa famille réelle et ses amis réels. Voilà. Enfin bon, tout ça, c'est un peu de la liberté conditionnelle, soyons clairs. Hein. Je pense qu'élever ses enfants, c'est les mettre en garde de pas mal de choses et aussi leur interdire et leur permettre des choses. Donc on interdit et on permet.
Qu'est-ce qui me reste comme activité? La lecture, peut-être?
Ah oui.
La lecture, c'est...
Oui, alors aussi, on lit beaucoup. Avec quelques amis, on a installé une petite tournante de lecture, là. Donc, je les reçois cet après-midi, même. Donc, on lit pas mal. Moi, j'aime lire, donc je lis beaucoup. Et on aime bien passer ce virus à nos enfants. Donc, l'été, c'est vrai que moi, je lis beaucoup l'année. Donc, l'été, je pars avec un grand sac de bouquins. Et je dis, tiens, tu devrais lire ça, c'est pas mal. Je pense que ça te plairait. Et voilà. Donc, en général, les enfants lisent, oui.
Et donc là, quand, par exemple, cet après-midi, vous recevez des amis, oui. Vous parlez des livres.
Alors, en fait, c'est très convivial. On parle des livres qu'on met dans notre tournante de lecture et puis des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin, des différents bouquins qu'on a pu lire, des choses comme ça.
Et vous, vos livres préférés ou auteurs préférés
Auteurs préférés, il y en a beaucoup.
Ou qui vous ont marqué
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'aime bien Philippe Claudel. Il y en a beaucoup trop, je peux vous dire comme ça.
Oui, non, c'est toujours des questions
compliquées. C'est toujours compliqué, voilà.
C'est vrai.
C'est toujours un peu compliqué.
Ouais.
Mais bon.
Non, mais c'est une grande part.
Oui, ça tient de la place, oui. Ouais. J'aime lire, je préfère aller bouquiner que passer du temps devant la télé, clairement. Ouais. Mais ce que j'aime bien aussi dans la lecture, c'est le partager. Je ne veux pas que la lecture isole. Bon, voilà. Il faut après en parler avec les uns les autres, essayer d'avoir lu des trucs un peu en commun, et notamment c'est pour ça que l'été serait souvent je passe les livres aux enfants et qui aiment lire. Moi j'aime bien aussi l'histoire, donc j'aime bien Max Gallo, justement on en parlait, parce que je trouve que quand il écrit des livres sur l'histoire qui sont souvent très bien faits et passionnants. L'été dernier par exemple, ma fille qui est en seconde, qui savait pas quoi lire, je lui ai collé hop la Révolution française. Comme elle aime l'histoire, elle a adoré. Du coup après elle a lu le Voltaire de Max Gallo, donc c'est vrai que j'aime bien qu'on puisse en parler et partager, parce que sinon la lecture ça isole un peu, donc c'est important de pouvoir après le partager.
Et le prêt de livre partagé, vous faites ça aussi avec les enfants? C'est organisé par exemple entre enfants ou non? Ça c'est dans votre famille qui...
Oui, alors il y a ce que moi je fais lire aux enfants ou mon mari, et puis nos enfants en 6e, on a organisé la même petite bibliothèque tournante pour eux, donc tous les 4, 5, 6 semaines, 5 semaines à peu près, ils se rencontrent autour d'un goûter pour rendre le livre qu'ils avaient emprunté, en prendre un autre et partager sur ce qu'ils viennent de lire.
Et vous passez aussi par la bibliothèque
pour... Oui, on a nos cartes de bibliothèque, ils vont aussi à la bibliothèque.
À Olivet.
Bon, là, c'est tout près. Alors, en vélo, c'est très facile. Donc, ils vont régulièrement à la bibliothèque. Ouais. Mais moi, j'aime les livres. Alors, la bibliothèque, ça me frustre un peu parce que j'ai besoin d'avoir le livre. Puis il me faut du temps, il faut que je le retourne dans tous les sens. Ah, j'ai un peu maniaque avec les livres.
Et puis ce qui est dur, c'est le choix. Quoi, d'être il y a tellement de livres. La presse, écrite, vous êtes abonné
Non, on n'est plus abonné. On a été abonné à la presse. On a été abonné au Point pendant un certain nombre d'années. Mon mari lit le journal professionnellement tous les jours. Moi, je lis un peu la presse sur Internet. Je préfère un hebdomadaire à un quotidien. Je trouve qu'il y a souvent un peu plus de recul dans l'information. J'aime pas trop l'information événementielle et sans recul, quoi. On vous balance des tas d'infos comme ça, pas toujours avérées, pas toujours vérifiées. Donc, je suis pas très. J'aime mieux les choses qui ont un petit peu de recul. Bon, je me tiens au courant, je suis pas un dinosaure non plus, mais voilà. Donc, je suis pas
Et une presse locale sur.
Non, pas trop. Non.
Plus du centre, tout
non,
ça.
Non, non, je ne sais pas. Je ne suis pas très intéressée, j'avoue.
Sur le local, justement, est-ce que. Bon, rassurez-vous, c'est bientôt la fin. Hein,
oui, non.
Vous
pas vous inquiétez
encore.
Pas.
Juste quelques questions un peu plus locales là, sur Orléans, notamment sur, par exemple, sur la façon de parler des gens. Vous qui êtes arrivé de Paris, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a. Alors, oui, je vous dis, par exemple, une façon. On a vu la gastronomie tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de spécialité orléanaise. Est-ce que vous avez été surpris par des mots, un lexique ou un accent à Orléans?
Non, je crois pas. Non. J'ai pas eu l'impression que ça me. Alors en même temps, je dois dire que quand on arrive d'une région, d'une autre région, même si c'était tout près, on se retrouve très très vite entre gens venant d'autres régions. Mmh. Je connais pas tant que ça d'Orléanais de souche ou voilà. C'est vrai que cela dit, dans les commerces ou les gens que j'ai pu fréquenter, j'ai pas noté un accent particulier. On n'est pas parti à Strasbourg quand même.
Orléanais de souche.
Non, je pense pas. Je pense pas. Mmh. Et puis je pense que les tics de langage des jeunes sont les mêmes que ce soit ici ou.
C'est quelque chose à laquelle vous faites attention, c'est l'éthique de langage de vos enfants.
Je trouve qu'il y a, c'est normal, hein, il y a un langage de reconnaissance de ce groupe-là, d'ados, qui n'est pas forcément le nôtre, qu'on emprunte parfois un peu de temps en temps, mais je pense qu'ils ont une façon de parler entre eux qui est quand même très très reconnaissable. Et je pense que là, pour le coup, que ce soit ici ou ailleurs, à mon avis, à mon sens, c'est les mêmes.
Hein. Oui. Voilà. Il y a des fois des choses qui vous agacent dans cette phase. Est-ce que c'est important pour vous aussi de leur apprendre une certaine façon de parler ou de...
Je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir à qui on s'adresse et comment on s'adresse. C'est-à-dire que ça ne me gêne pas qu'entre eux, ils se parlent, ou qu'ils s'écrivent en texto, ou qu'ils se parlent avec leur tic de langage à eux. Maintenant, je pense que quand ils parlent à d'autres personnes, ils doivent retrouver un langage un peu plus compréhensible, une orthographe un peu plus dans la norme. Voilà. Donc moi, c'est vrai que, par exemple, quand mes enfants m'envoient un texto, ils me l'envoient en français.
Ah oui.
Voilà.
C'est un choix, une obligation
Non, je leur ai jamais dit que je voulais pas un texto, mais ils doivent se dire la pauvre fille, elle va pas comprendre, peut-être ça. Non, je crois que c'est important. Moi, je suis pas du tout opposée à l'évolution de la langue. Je trouve que c'est normal. Enfin, j'imagine que mes grands-parents comprendraient pas forcément notre façon de parler aujourd'hui. Voilà. Mais on peut évoluer tout en gardant quand même. Des choses belles, notre langue est belle, je trouve que c'est important de la conserver. Alors qu'elle évolue, moi j'ai rien contre, mais j'imagine, vous c'est pareil, j'imagine que si vous recevez une copie écrite en texto, ça va quand même vous heurter.
Absolument.
Bon, et ben moi je veux qu'on me parle correctement et qu'on m'écrive des choses que je peux comprendre sans avoir à les lire à haute voix.
Et l'orthographe, justement, vous pensez qu'on devrait évoluer, qu'il y a des règles qui devraient changer ou que c'est.
Alors, j'ai un fils dysorthographique, donc l'orthographe a été un pierre d'achoppement pour lui. Moi, je pense que si on déstructure trop les choses, on ne va pas forcément mieux s'y retrouver. Finalement, quand on a des règles et des structures, on doit bien finir par rentrer dedans. Donc, est-ce qu'il y a des choses à simplifier? Peut-être. Est-ce que c'est là une évolution, un progrès? Ça, j'en sais rien. Mais je pense quand même que se structurer dans une orthographe, un apprentissage, c'est pas plus mal pour la suite de notre vie, parce que dans la vie, on est bien obligé, quand on devient adulte, d'entrer dans certaines structures un peu rigides. Donc, est-ce que l'orthographe n'est pas aussi un apprentissage à ce qui nous attend? J'en sais rien. Alors, bon, peut-être faire évoluer certaines choses, pourquoi pas? Pas être non plus psychorigide. Mais je pense qu'il n'est pas inutile de garder des structures de la langue telles qu'elles sont.
Et la langue française par rapport à d'autres langues, je ne sais pas si sur Olivier on entend beaucoup de gens qui parlent d'autres langues que le français dans la rue, dans les commerces.
Dans les commerces, on les entend à l'époque de l'été. Oui, l'été, on a pas mal, il y a pas mal d'étrangers quand même, hein, qui viennent à un petit camping à Olivet, donc on a pas mal d'étrangers qui passent ici. Moi, j'aime beaucoup les langues. Je suis donc des origines italiennes. Je parle l'italien, je parle le français, j'apprends le russe, je parle l'anglais, je baragouine un peu l'allemand. Donc j'aime beaucoup les langues. Je trouve que c'est une vraie richesse et que pour comprendre une culture, on passe par son langage. Ça formate quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on entend beaucoup de langues étrangères à Orléans? Je pense que l'été, c'est quand même une région touristique. Donc oui, c'est important de savoir parler des langues étrangères. Mais on a beaucoup poussé vers un apprentissage des langues parce que je pense que c'est essentiel à la culture et puis à l'épanouissement et au fait d'aller vers les autres.
Oui, la langue, c'est un moyen aussi d'aller vers les autres.
Ah ben oui, ah oui. Oui, c'est vrai que quand vous vous retrouvez avec une brave petite dame anglaise qui vous demande sa route et qui demande en général à une autre petite brave petite dame française qui ne parle pas un mot d'anglais, ça complique.
Oui. Ouh, j'en ai perdu. Je vous laisse le remettre.
Pardon.
C'est très lié au partage. Vous m'avez quand même beaucoup parlé du partage. Ça, bien sûr.
C'est important. Oui. Ouais. C'est important de pouvoir. Moi, je pense que de communiquer. On a eu cet exemple avec notre jeune fille au père étrangère qui parlait très très bien le français. Je pense qu'elle n'aurait pas eu le parcours qu'elle a eu aujourd'hui si elle n'avait pas fait l'effort d'apprendre notre langue comme elle l'a apprise. Et c'est un facteur d'intégration. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet très à la mode. On ne peut pas s'intégrer dans une culture si on n'en parle pas la langue. Moi, j'ai eu un grand-père italien qui parlait très bien français, sans pour autant renier ses origines et son pays. Mais j'imagine qu'il n'aurait pas pu faire souche ici s'il n'avait pas fait l'effort, effectivement, d'apprendre convenablement une langue. Mais c'est pas à renier, en oublier et en renier une. C'est s'ouvrir vers les autres, vers les autres cultures.
Oui. Cette ouverture vers les autres que vous avez mentionné plusieurs fois sur la lecture, sur les activités, sur le partage, ça c'est très lié à votre intérêt pour la religion.
Ouais, alors je pense pas qu'on puisse parler d'intérêt pour la religion.
je vous concède que l'expression est maladroite.
Non, mais on peut être intéressé par les religions, pense. Et d'ailleurs, je le suis. Je trouve que c'est intéressant pour comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est important de s'intéresser à ce que vivent d'autres personnes d'autres religions. Le fait que nous soyons catholiques et pratiquants, alors j'aime pas trop le terme pratiquant, ça me fait penser au golf en général quand on dit pratiquant, mais bon. Effectivement, c'est également une ouverture sur les autres, un intérêt pour les autres. Là, pour le coup, on peut utiliser le mot intérêt. La religion, c'est soit on est un peu tombé dedans quand on était petit parce qu'on a été élevé dans une famille chrétienne, catholique, musulmane, juive, j'en passe. Soit on y est venu. En ce qui me concerne, moi, j'ai été élevée par une famille pratiquante. Nous allons à la messe le dimanche, on fait partie d'un mouvement chrétien, etc. L'ouverture aux autres, je pense que c'est quand même aussi une question de tempérament, parce qu'il y a des gens qui sont totalement athées qui sont quand même très ouverts vers les autres. Alors c'est peut-être un autre regard, un regard chrétien qu'on pose aussi sur les autres, mais il n'est pas exclusif. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que tout le monde peut avoir une attention et une ouverture vers les autres sans regard chrétien. On y apporte un autre regard. Voilà.
Par contre, chez les chrétiens, est-ce que vous pensez que c'est justement une caractéristique première chez les chrétiens d'être ouvert vers les autres ?
Il faudrait, évidemment. À partir du moment où dans notre religion, le maître mot c'est l'amour, on ne peut pas ne pas avoir un regard vers les autres. À partir du moment où on professe l'amour, le pardon, il est bien évident qu'on est uniquement tourné vers les autres. Si tous les catholiques étaient parfaits, je pense que depuis le temps ça se saurait, et c'est valable pour toutes les autres religions, on est d'abord humain. Donc on est appelé à la sainteté, le chemin est long, plein d'embûches, mais il faut progresser. Voilà, on est en route.
Et vous trouvez que sur les discussions polémiques actuelles, sur les chocs des religions, sur l'importance des religions, c'est effectivement une question de société très, très importante actuellement?
Oui, je pense que c'est quelque chose de difficile quand on a soi-même la foi, d'imaginer qu'on puisse se heurter sur des faits religieux, parce que sincèrement, j'imagine, enfin, que ce soit les juifs, les musulmans ou les catholiques, ils aiment le même Dieu, un Dieu unique. Je crois que tout ça est à redescendre à un échelon beaucoup plus humain, c'est-à-dire que c'est des hommes qui se battent entre eux, c'est pas Dieu qui demande ça. Le communautarisme est quelque chose de très dangereux, je pense. Il y a des pays où les communautés vivent ensemble. Donc si certaines communautés dans certains pays peuvent vivre ensemble, je crois que ce modèle-là peut s'appliquer dans d'autres pays. Mais il y a des pays où les gens sont quand même très très extrémistes. Et là, c'est un réel danger, c'est quelque chose qui fait très peur. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je me dis, c'est des montées de violence sous couvert de religion, mais qui sont véritablement que sous couvert de religion. Je crois que le Dieu n'a rien à voir là-dedans, hein, parce qu'il demande. Et quand on relit aussi bien la Bible que le Coran, on y professe l'amour de l'autre, pas la haine de l'autre. Donc je crois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas bien lu le livre auquel ils se rapportent. C'est dommage. Le Coran est un livre magnifique qui prône l'amour, qui prône pas la guerre, qui prône pas la violence. Donc je ne sais pas, peut-être une relecture à voir. Mais bon. La sagesse finira peut-être un jour par triompher, qui sait.
Voilà, est-ce que vous êtes plutôt confiante pour l'avenir ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est inquiétant. Hein. On voit quand même des montées de violence, de haine qui sont quand même inquiétantes. Est-ce que c'est des choses probablement qu'on a déjà connues il y a plusieurs siècles ? Moi, je crois beaucoup à l'effet balancier. Je me dis qu'à un moment, on est très dans un extrémisme, après, on risque de repartir très dans un autre. Confiante, je ne sais pas s'il faut être confiant, je pense qu'il faut être vigilant surtout. Je crois aussi que par l'information, l'éducation, offrir à des gens, à des jeunes de banlieue par exemple, l'accès à une vraie éducation peut les aider à sortir de certains prêches qui les emmènent dans des positions extrémistes pas tenables. Alors, le partage aussi, hein, on a parlé du partage, mais moi je crois au partage des richesses. Peut-être que mettre des gens dans des ghettos comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. Hein, et on finira un jour par payer, malheureusement. Donc il faut peut-être ouvrir les yeux.
D'accord, mais écoutez, moi j'en arrive à la fin de mon entretien, à moins qu'il y ait des choses que vous vouliez ajouter, des choses qui sont importantes pour vous.
Mais je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a été très bavard.
Non, mais vous êtes... Mais oui, je vous ai pris un peu de temps que prévu. Si je peux, juste une dernière question, vous allez voir que je garde pour la fin, ce qui est totalement particulière et un peu idiote. Mais il se trouve qu'il y a 40 ans, quand les Anglais sont venus faire leur... il y a une enquête qui a été faite par les Anglais il y a 40 ans, ils ont posé la même question aux 150 personnes, une question toute bête, ils ont demandé aux gens comment ils faisaient une omelette. Et on s'est rendu compte que les gens, un plat le plus simple, avaient des habitudes différentes sur la façon de faire une omelette. Ma première question, c'est est-ce que vous faites des fois des omelettes ?
Eh bien, c'est pas ma façon préférée de manger les œufs. Je les aime mieux brouillés.
Est-ce que ça vous arrive quand même d'en faire ?
Ah ben alors oui, ça peut m'arriver d'en faire.
Est-ce que dans ce cas-là, vous accepteriez, en conclusion de cet entretien, de me livrer votre propre façon de
procéder ? Ma recette de l'omelette ?
Votre propre recette de l'omelette.
Écoutez, oui, je ne m'attendais pas à ça, effectivement. Alors oui, alors l'omelette, on en fait très rarement parce qu'on n'aime pas trop ça. Mais quand on fait de l'omelette, eh bien, on bat des œufs dans un saladier, on y met du sel et du poivre, et on met ça dans une poêle un petit peu huilée, bien chaude, et on verse, et on attend que ça cuise.
D'accord.
Mais je préfère nettement les œufs brouillés, hein, je le dis tout de suite.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment pour cet entretien.